Il faut parfois parler du soleil. Du soleil parce qu'aucune terre n'a été à ce point soumise à cet astre, à ce soleil. Une terre qui a vécu par lui, qui vit par lui, pour lui. Et puis ce pays maya que nous allons aborder aujourd'hui, que ce soit au Petén, que ce soit ce pays de savane qu'est le Yucatán, c'est d'abord avant tout le pays du soleil. Un pays qui est plat, un pays aride, dénudé. Un plateau, un véritable plateau calcaire qui est présenté véritablement au ciel, qui est une sorte de désert qui pourtant a été habité pendant des millénaires, un désert où ne coule absolument aucune rivière. C'est un territoire qui n'a pas de vallée, qui n'a même pas de montagne, ou si ce n'est une petite colline qui monte peut-être à 100 mètres de hauteur. On les appelle en maya les collines Puuc. Puuc veut dire l'endroit qui a des pierres élevées, c'est-à-dire ces petites collines qu'on voit à l'horizon. Et on n'est pourtant pas plus proche du soleil lorsqu'on passe un col comme ceci à 100 mètres d'altitude. Ici, le ciel que vous voyez, il a quelque chose d'immense. Il y a aussi cet horizon qui est absolument illimité. Je le comparais pratiquement à la mer. Et dans ce ciel qui est si vaste, vous avez ce soleil qui chaque jour trace une route extrêmement longue, une route très régulière. Et on ne peut pas l'oublier quand on vit au Yucatán quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Il crée ce que j'appellerais un véritable temps visible dont on ne peut absolument pas se distraire. Et la nuit, au-dessus de cette terre obscure, il y a des millions, mais des millions d'étoiles qui brillent avec une force absolument incroyable. Et puis, regardez-les, elles écrivent véritablement des signes. Ce sont leurs signes, parce que ce pays appartient véritablement au ciel beaucoup plus qu'à la terre. Et chaque action, toute vie, c'est quelque chose qui se passe comme cela sous le regard de cet espace. Les hommes ne se rencontrent pas, en tout cas ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent sur cette terre qui a quelque chose d'absent. Non, c'est le ciel qui est véritablement l'objet de leur désir. Si j'ai envie de vous parler du Yucatán, si j'ai envie de parler de ce présent, de cette chose présente qu'est le soleil, soleil en maya se dit kin. Kin, c'est aussi le soleil, mais c'est aussi le jour. Parce que c'est la mesure du temps, c'est l'origine aussi de ce qui a été, ce qui peut être considéré comme un dieu unique, celui qu'on appelle encore aujourd'hui Wanapku. Wanapku, c'est le créateur de toutes choses. C'est aussi celui que je vais appeler l'ordonnateur de tout ce qui est vie, de tout ce qui est vie terrestre. Et c'est en suivant un ordre extrêmement précis que les Mayas vont inventer le Shokkin. Le Shokkin, c'est le calendrier du soleil, le calendrier solaire. Et il a précédé certainement toutes les autres sciences inventées par les Mayas. Et pour un peuple qui vit si près du soleil, de façon aussi intense, en harmonie avec cet astre suprême, sur cette terre qui est tellement exposée, il y a une sorte d'urgence. Et c'était naturellement l'urgence de comprendre ce qu'est véritablement le temps. Avant de se comprendre soi-même, avant de connaître ce que nous appelons l'histoire, je dirais qu'il fallait comprendre d'abord les lois du ciel, car c'était dans le ciel que se trouvait véritablement l'explication du mystère. Je dirais même que si vous cherchez bien, vous allez comprendre que les Mayas y cherchaient surtout la clé de l'avenir. Quand je parle de l'avenir, c'est du ciel que pouvait venir ce qu'on appelle la prophétie. Et tout va être organisé selon le plan, selon les desseins du ciel, et surtout ce dessin, cette idée que l'on se fait du soleil. Les citadelles, les temples, les pyramides, tout cela a été construit en suivant exactement cet ordre solaire. Alors, si on parle de prière, si on parle de sacrifice, si on parle de travail, eh bien tout cela a été dédié au dieu solaire, c'est-à-dire à Kinichkakmu, celui qu'on appelle le perroquet de feu ou l'ara de feu, si vous préférez. Il a un véritable visage de soleil. Il est puissant, mais il est surtout impitoyable. Il donne la vie, il l'enlève aussi sans aucune justification. Alors, les peuples solaires ne connaissaient pas la pitié des dieux, mais ils étaient véritablement faits à l'image de l'homme, ces divinités. Ouais, ils étaient tout ainsi extrêmement cruels. Et sur un sol qui est aussi aride comme sur les hauts plateaux de l'Anahuac, là je pense à la région de Mexico par exemple, les dieux sont à l'image de cet astre suprême. Ils sont cruels, ils sont sanguinaires. Et surtout, je crois qu'ils sont capricieux, des caprices complètement incompréhensibles. Et je dirais aussi qu'ils bougent dans l'espace, ils se meuvent dans quelque chose qui est complètement inaccessible à l'homme. Et ils ont sur toutes les créatures de ce bas monde, eh bien, un droit, un véritable droit de vie et de mort. Alors quand on dit que le peuple maya est passif, en tout cas pour expliquer cette passivité au moment de la conquête espagnole, on disait ou on dit encore que ce sont des gens qui sont contemplatifs, qui sont fatalistes, qui sont surtout indifférents. Indifférents en particulier à la souffrance, indifférents à, je dirais, à la mort surtout. C'est peut-être une erreur parce qu'il faut comprendre la fascination de tous ces Mayas et leur véritable raison d'être. Parce que la connaissance du temps qu'on évoquait tout à l'heure, ça n'était pas ce qu'on pourrait appeler un luxe, mais c'était véritablement une nécessité. C'était quelque chose d'obligatoire qui leur permettait de se rapprocher de ce qu'ils ne comprenaient pas. C'était une sorte de rapprochement avec l'univers. C'est une sorte d'union avec leur propre divinité et ces dieux qui sont maîtres absolus de leur propre existence. Alors, la grande découverte du peuple Maya, c'est d'avoir senti que ce monde terrestre n'avait rien de, comment est-ce que je vais dire, n'avait rien d'autonome en fait, mais qu'il y avait une sorte de parcelle que l'homme lui-même est comme quelque chose de tout petit dans cet infini, et que c'était véritablement le temps qui ne formait qu'un passage sur l'immense roue géante que maintenant vous imaginez. On la voit tourner, on la sent tourner. Regardez le soleil, il vient de se lever, ce soir il se couchera. Et puis il continue sous terre, il crée une sorte de cheminement qui fait qu'on a véritablement dans la tête la roue du temps. Alors quand je parle du temps, c'est aussi pour mieux comprendre comment et pourquoi on a édifié certains monuments. Il fallait consacrer absolument tous les efforts à comprendre cette organisation du ciel, et je crois qu'ils vont chercher la vérité, là je parle des Mayas bien sûr, dans cette exactitude de l'univers solaire. Alors sur la Terre, on voit bien qu'il y a des signes de cette création, qu'on pourrait reparler de l'origine, de toute la mythologie, des lois réelles de cet univers tout entier, mais il y a quelque chose qui se concrétise immédiatement. Je vais dire que c'est l'écriture, c'est l'écriture première, celle qui correspond justement au compute du temps. Alors immédiatement, vous comprenez que tout à coup, on a besoin d'un morceau de bois, d'une pierre, et que ces inscriptions, ces dates que l'on va laisser sur les tounes, eh bien, sur les tounes, ce sont des arbres qui sortent carrément de terre. Prenez un monolithe, fichez-le en terre, vous faites un arbre de pierre. Et sur cet arbre-là, eh bien, vous allez sur ces stèles, sur les linteaux des temples aussi, vous allez laisser ces quelques touches de temps, d'écriture, de calendrier. Cette écriture, elle nous paraît un peu hiératique, elle a été oubliée longtemps, on commence maintenant à la décrire, à la connaître. On sait qu'elle ne servait pas véritablement l'histoire, mais elle servait une certaine histoire et surtout une histoire des mythes. Même un grand personnage qui régnait à Uxmal, à Sahil, à Labna, à Xlapak, que nous allons visiter, eh bien, ces gens étaient d'abord liés à des mythes et à des images. Donc cette écriture, je dirais qu'elle sert à inscrire le temps dans la conscience, là, à l'intérieur du cerveau des hommes. Et c'est une science qui n'est pas faite pour eux, mais elle est véritablement faite pour autre chose même que des dieux. Elle est seulement là pour affirmer la suprématie absolue du temps. Les hommes, les dieux, tout cela est soumis à l'ordre du temps. Et l'univers avait naturellement existé bien avant eux, bien avant ces Mayas. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a surtout, je crois, pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité que cette espèce de concordance étrange qu'on ressent chez les Mayas entre la terre et le ciel. Un ciel qui nous fait penser qu'il y a cette même concordance entre le temps et l'éternité. Parce que pour les Mayas, le calendrier, c'était la forme parfaite du langage, la forme parfaite de la pensée. Et seul un Maya pouvait rendre visible aux yeux, disons, des autres présents, le dessin, l'idée complète que l'univers et les dieux existaient depuis le commencement et qu'ensuite il y aurait certainement une fin. C'est-à-dire que chaque instant était ainsi perceptible, était visible, était connu. Et ce calendrier, je pense que c'est l'un des plus précis que l'homme ait imaginé. Son exactitude, elle dépassait celle du calendrier que nous avions en Europe, même au XVIe siècle. Ils vont le baser sur le Soleil, sur la Lune et sur la planète Vénus. Calendrier qui avait des mois, qui comprenait 20 jours et qui portait des noms des divinités, de héros. Il y avait ensuite 18 mois qui formaient l'année. L'année, je l'appellerais Toun justement, comme nous parlions des stèles et de l'ordonnance du temps. Un Toun, ben, c'est 360 jours et vous rajoutez 5 jours sans nom, les Shma, Kaba, Kinob, la mer, ou plutôt le début des choses de l'année, puisque ceci précédait véritablement le début d'une nouvelle année. Alors les jours de jeûne, par exemple, de pénitence, tout cela recommençait à chaque année. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce recommencement du temps, le travail des jours et non pas des hommes. Et comme les jours, les mois correspondaient à des divinités. Le commencement de chaque mois, c'était l'occasion d'une fête. Le début de l'année, au premier jour du mois de Pop, par exemple, qui tombe sur notre mois de juillet, bah, c'était la grande fête. Les prêtres, les notables, il y avait des jeûnes, on célébrait des fêtes incroyables dans l'enceinte du temple. On était là devant les dieux de la pluie, les Tchaks. Il y avait la cérémonie du feu nouveau. Et puis ensuite, pour le mois de Uo, on va vénérer Kinichahau, Itzamna, celui qui a le visage du soleil, l'inventeur des arts, celui qui a inventé l'écriture, ses hiéroglyphes, les livres sacrés qui étaient repeints, qui étaient exposés sur un tapis de feuilles, et puis les monuments eux-mêmes. Les monuments dont nous allons parler, parce que lorsqu'on se retrouve à Uxmal, et lors de notre dernier rendez-vous, nous étions à Uxmal devant le palais des gouverneurs, vous allez comprendre que même là, par des motifs, par de simples pierres taillées, on reparle du temps, de l'énergie, et puis surtout de la charge humaine. Grimpez les marches. Vous êtes sur une plateforme incroyable et vous découvrez ce palais des gouverneurs. Un palais des gouverneurs immense, où on remarque sur l'extension, en somme la couronne générale qui court sur des dizaines et des dizaines de mètres, on voit qu'il y a d'abord un fond sur lequel se détachent des motifs. Il y a des grecs, il y a des masques aussi. Et puis, cette frise est constituée par un rythme extrêmement régulier. Il y a des croisillons qui imitent le clayonnage. Vous savez, ces clayonnages en claire-voie qu'on a encore dans les huttes mayas aujourd'hui. Il y a ce fond aussi qui représente un peu plus du tiers de la surface totale de la frise. Et on peut l'évaluer. Là, je reprends par exemple Stirling qui a fait des calculs extrêmement précis. Il évalue cela à 300 mètres carrés pour tout l'ensemble du palais des gouverneurs. Et ces croisillons sont formés de blocs sculptés qui présentent un relief avec un motif. Comment est-ce que je peux vous le décrire? C'est une croix. Non, c'est pas une croix normale. C'est une croix de Saint-André qui est répétée par juxtaposition. Les blocs, ils mesurent à peu près 20 cm sur 20 cm. Il nous en faudra à peu près 25, grosso modo, au mètre carré. Donc je dirais qu'il faut entre 7500 et 8000 blocs dont la dimension est exactement identique. Je veux dire qu'il y a une dimension rigoureusement précise. Alors, si on parle de cette frise qui court avec ses masques, je vous décris un masque de Tchak, hein. Vous avez une étude attentive qu'on pourrait faire, mais ces masques, ils mesurent à peu près 1,20 m sur 60 cm, grosso modo. Et on voit qu'ils ont été faits de façon extrêmement symétrique et qu'il y a à peu près 20 blocs par masque. Je vous fais bien comprendre que ce sont de véritables mosaïques, mais elles sont lourdes, elles sont un peu comme les pavés que vous avez sur la rue ou sur une place. C'est-à-dire qu'il y a une certaine profondeur et tout ceci est tenu de façon verticale dans du mortier. Alors, cette structure qui comporte 20 blocs, ben, vous pouvez la répéter puisqu'il y a en fait chaque fois trois éléments différents pour le nez, par exemple. Les nez, oh, je l'ai déjà dit, mais ça ressemble à de longues trompes d'éléphants qui ont été sculptées dans la matière, dans ce calcaire doux au départ et qui a durci au soleil. Et il y a deux blocs semblables, bien sûr, pour les yeux, il y en a deux pour les sourcils, vous en aurez deux, par exemple, pour les paupières inférieures, et deux pour le motif qui surmonte les oreilles, on dirait presque une boucle d'oreille, et il y en a deux pour le motif d'en dessous. Enfin, là, je pourrais continuer le calcul, mais si vous comptez quatre pour les oreilles, si vous comptez deux pièces symétriques qui entourent, par exemple, l'ouverture de l'oreille elle-même, c'est-à-dire le canal auditif, vous pourriez encore prendre les éléments de la gueule qui sont pourvus de crocs énormes. Eh bien, il suffit de faire une évaluation et on va comprendre très vite que le sculpteur devra travailler 260 nez identiques, 520 des yeux, il en faudra, et vous pouvez continuer comme ça avec l'oreille, etc. Vous y êtes? C'est simplement pour vous montrer qu'en tout, on aura à peu près 5200 ou 5300 éléments qui comportent, par exemple, ces 11 motifs différents. Alors, je fais un peu des mathématiques, mais quand vous arrivez tout à coup à 20 000 pièces, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de vous dire que ça implique, sur le plan de la technologie, des formules qui totalisent finalement des milliers d'éléments tout à fait identiques. Alors on se pose la question, ce qui fait cette précision, c'est surtout le fait de devoir sculpter avec un côté presque diabolique. La création de ce monument, vous remarquez qu'on ne peut pas faire d'erreur, par exemple. On va répéter à des centaines d'exemplaires, au centimètre près, dans la largeur ou dans la hauteur de chaque bloc, on va aboutir finalement à quelque chose qui doit être parfait. S'il y avait une erreur de quelques millimètres, on aura obligatoirement une déformation de la frise et le montage sera tout à fait impossible. Parce que vous avez compris, on sculpte tout cela avant. Alors, on est vraiment en face d'un cas de... Comment l'appeler? C'est de la rationalisation, en fait. Une rationalisation du travail. Et on a recours pratiquement à une production en série. Et les sculpteurs doivent réaliser des centaines, je dirais même des milliers de pièces absolument identiques, absolument pareilles. Alors, comment concevoir l'organisation d'un tel chantier? Vous me direz, il n'y a pas de rapport avec mon idée du temps, avec l'idée du soleil, avec cette idée de la répétition. Mais si, parce que on comprend maintenant qu'on a affaire à une véritable entreprise de préfabrication. Alors, dans le mot préfabrication, il y a déjà quelque chose d'intrigant, parce qu'il y a bien sûr ceux qui vont dégrossir les blocs, il y a ceux qui vont transmettre aux artisans plus habiles le travail suivant, c'est-à-dire les panellages par exemple, et il faudra arriver finalement au format définitif. Et les sculpteurs, ils vont ensuite travailler proprement chaque bloc avec son décor particulier. Et c'est là qu'on peut concevoir une véritable spécialisation, parce que telle équipe va se consacrer uniquement à la taille des yeux, par exemple. Vous allez travailler uniquement à la taille des sourcils, et puis là, vous allez vous occuper des gueules. Finalement, ce sont des opérations véritables. Et on aboutit à un travail à la chaîne. Et c'est très important. Vous venez de sentir, j'ai parlé du temps, maintenant je parle d'une construction, il y a des éléments. C'est vrai. Il n'y a qu'une chose qui nous fait penser à cela à l'époque moderne, c'est ce qui se trouve du côté du nord et qui se vend en petits plastiques de couleur rouge, jaune, blanche. Vous l'avez deviné? Je parle tout simplement du Lego. Le Lego, vous en faites ce que vous voulez et pourtant, il y a une matrice de base. Un rythme un peu obsédant, c'est vrai que là on ressent tout à coup un absolu, quelque chose qui est derrière nous. On nous enseigne ainsi, uniquement en parlant d'une construction, en parlant du temps, en parlant d'une véritable religion, vous voyez involontairement se dessiner la pyramide sociale avec une base extrêmement large, avec de nombreux agriculteurs. Vous allez pouvoir, à la saison sèche, les obliger à travailler comme main d'œuvre non qualifiée. Et puis, vous aurez ensuite des ouvriers, vous aurez des carriers, des tailleurs de pierre, ceux qui vont confectionner naturellement la chaux, parce qu'il faut créer des fours en plein air, il faut abattre des arbres, il faut tailler les poutres. Un travail, un chantier, une véritable fourmilière. Et puis ensuite, il y a les artisans, les véritables artisans. Et je dirais que là, on distingue par degré d'ancienneté et d'habileté plusieurs niveaux. On vient d'en parler, c'est-à-dire qu'il y a celui qui est vraiment celui qui commence, enfin, les panelleurs de tout à l'heure, et puis finalement, le sculpteur. Mais je dirais qu'en parallèle, là, je viens de parler de société, vous voyez aussi partir des marchands. Et bien sûr qu'ils pratiquent des échanges, ils vont à l'extérieur, ils vont en province, dans les différents endroits du monde maya, 325 000 km². Et on les imagine aussi le long des côtes. Là, vous êtes au Yucatan, vous êtes sur cette péninsule étrange qui déborde sur la mer des Caraïbes et l'Atlantique. Et immédiatement, on voit bien sûr ces voies maritimes qui se créent et qui font tout le tour de la péninsule, qui descendent du côté du Belize actuel, du côté du Honduras et qui pénètrent à nouveau dans les jungles du Petén guatémaltèque. Alors, il y a bien sûr un autre élément. Si je parle de la pyramide, d'en dessus, je mettrai carrément les guerriers avec les nobles, ces nobles qui les commandent. Et ensuite, les hauts dignitaires, je dirais les prêtres, les conseillers, les astronomes, les mathématiciens, enfin, ceux qui s'occupent des mathématiques de tout à l'heure, là, les mathématiciens, les architectes, naturellement. Et enfin, le souverain. Le souverain qui occupe, avec une famille incroyable, le sommet de cet édifice social. C'est un roi qui a des pouvoirs absolus. C'est un homme. C'est un dieu aussi. C'est un homme mi-dieu, mi-homme. Et je crois qu'il assume véritablement le destin de son peuple. Revoyez le soleil dans l'espace. Repensez au temps. Et vous allez voir que cette structure typique des civilisations qui sont d'abord agricoles, bien sûr, agraires, je crois que ceci correspond totalement à l'organisation sociale du monde maya. Vous avez eu la terre, vous avez eu le ciel. On vient de construire une pyramide. Avez-vous eu le temps de relever certains chiffres ? J'ai parlé du calendrier, j'ai parlé de 260 masques, j'ai parlé de jours. Il y avait un calendrier magique et agricole qui était fait de 13 mois de 20 jours. Il y avait un calendrier vénusien aussi. Et il y avait le Toun de tout à l'heure de 360 jours plus 5, 18 mois de 20 jours plus 5. Tout cela comme de grandes roues. Et en même temps, quand on évoque les mouvements dans l'espace de ces 260 masques qui couraient sur l'édifice du gouverneur à Uxmal, eh bien, on commence à comprendre qu'entre ces chiffres et une réalité temporelle, il y a une relation. Tout à coup, on s'imagine que nulle part ailleurs, il n'y a eu une telle fascination pour les chiffres, bien sûr, mais les chiffres, c'est naturellement le temps. Une telle passion pour le ciel, on l'a évoqué tout à l'heure, regardez-le, ce ciel. Aujourd'hui, il est bleu. Demain, il est formé de nuages incroyables qui courent, un peu comme dans le film de Werner Herzog. Vous savez, au début de Cœur de Verre, lorsqu'il a accéléré le mouvement des nuages et qu'on a l'impression de quelque chose qui court comme cela en-dessus de nous, comme une véritable course de nuages au moment des cyclones, au moment des grande pluie. Et il y a aussi ce peuple qui, naturellement, n'a pas eu le goût d'édifier pour lui, et on le ressent chaque fois qu'on visite un site précolombien, que ce soit au Mexique ou au Guatemala. On sent que ce peuple a eu le goût d'édifier, disons, pour penser véritablement à lui-même, c'est-à-dire ses pyramides, ses monuments. C'est un peu le reflet de ce qu'il imagine. Son art, sa science, ça ne servait qu'à déchiffrer, ça ne servait qu'à vénérer aussi, à vénérer le temps, ça vous le comprenez maintenant. Les monuments mayas, ce sont d'abord des observatoires ou je dirais des plans qui sont venus du ciel, qui sont imposés par le ciel. Les pyramides, ce sont des calendriers solaires. Le palais des gouverneurs de tout à l'heure, ce sont des points de repère pour observer la naissance d'un astre, de Vénus par exemple, ou alors le moment des solstices. Partout où vivait un Maya, où ce peuple qui est tenu, rappelez-vous de la rationalisation de tout à l'heure, de cette structure extrêmement dense, extrêmement sévère, eh bien les Mayas étaient en contact uniquement avec le ciel. Et aujourd'hui, quand on pénètre dans une de ces forêts tropicales ou dans cette savane du Yucatan et qu'on voit entre les branches calcinées des buissons au milieu de ces pierres sèches là, de cet étrange désert qu'est la péninsule, vous voyez qu'il y a toujours ces inscriptions. Elles ont quelque chose d'émouvant. C'est ce que l'homme a voulu laisser. C'est ce qu'il a pensé pouvoir laisser pour défier le temps. Et je crois que ces quelques ruines que l'on visite aujourd'hui, elles nous disent aussi qu'il n'y a pas de survivance qui soit dérisoire. Non, il n'y a rien d'autre qu'une date. Une date, un symbole, un masque, un motif inscrit, écrit dans la pierre, le nom d'un jour, mystérieux. Un jour, je vais l'appeler nécessaire, sur cette route. Attention, la route n'est pas droite. Chez les Mayas, elle est circulaire. Nous étions assis sur les marches de ce palais du gouverneur. Nous avons mentalement refait derrière nous la frise avec ses 260 masques, 13 x 20. Et puis, on a remarqué que les autres motifs se multipliaient par 104. 104, ça vous dit quelque chose? Moi, il a fallu longtemps pour que je comprenne ce que voulait dire 104. 104, c'est tout simplement 2 x 52. Mais qu'est-ce que 52? Eh bien 52, c'est tout simplement la jonction du calendrier de 260 jours en multiple avec celui de 365 jours. Essayez une fois de multiplier 365 par 260. Vous allez arriver à 18 980 jours. Là, je le fais de mémoire. Mais 18 980 jours, quand vous le divisez, vous verrez que ça fait 52 années solaires. Le commun multiple entre les deux calendriers, le magique et le toun de tout à l'heure, ce toun du temps solaire, se rejoignent tous les 52 ans. Et lorsque les deux ensemble sont additionnés, c'est-à-dire deux fois 52 ans, deux siècles juxtaposés, vous arrivez tout à coup à un commun multiple avec Vénus. Les 584 jours que met la planète Vénus à revenir au même endroit, au même point dans le ciel, c'est-à-dire lorsque tout à coup, en alignement, le Soleil, la Terre et Vénus sont exactement au même endroit. Un phénomène curieux qui se reproduit tous les 104 ans. Vous venez de comprendre? Eh oui, 104 ans solaires, c'est le moment où tout à coup, dans votre main céleste, vous avez le Soleil, Vénus, le temps parfait, le temps magique. Tout est ainsi ensemble et mêlé. Regardez le palais du gouverneur. Derrière vous, il y a 260, il y a 104. Devant vous, une visée astrale qui vous permet de connaître exactement le coucher héliac, le coucher parfait de la planète Vénus. Et puis une colonne, et puis un trône, et puis tout au bout, nous l'avons déjà dit, au fond, là, du côté de la savane, un site seul, le site de Napote. Un site que l'on maintient sous la coupole, sous la force, sous le pouvoir du palais du gouverneur. Si on l'a appelé comme cela, c'est parce que il y a quelque chose en le regardant. Il y a quelque chose que l'on ressent, que l'on respire, la force d'un seul homme qui est au sommet de cette pyramide sociale. Quand vous allez vous asseoir tout à l'heure sur le trône, quand vous allez sentir dans votre main gauche une tête de jaguar, dans votre main droite une autre tête de jaguar, vous allez sentir que vous tenez entre vos mains, par votre corps de gouverneur, de grand seigneur, vous tenez à la fois le début et la fin du mouvement du temps, le soleil. Ce soleil qui s'est levé ce matin lorsque le jaguar a ouvert sa gueule béante et qu'il a surgi de cette mer de verdure. Et ce soir, dans ce déluge de sang et de couleurs rouges, le moment où le deuxième jaguar, beaucoup plus agressif, va le dévorer. Il vous reste un long trajet nocturne et des millions d'étoiles. Tiens, voilà Vénus. Vont passer. 18 mois de 20 jours, le Toun. 5 jours. 5 jours sans nom. Sans aucun nom. 5 jours inconnus. Un manque. Un trou. Mais 18 mois. 18 mois qui correspondaient, je l'ai dit tout à l'heure, à des divinités. Et chaque fois, au début de chacun de ces mois, il y a une fête. Nous avons déjà vécu le mois de Pop. Le mois de Uo. Uo, un terme tout simple, tout comme Sip. Sip, c'était le dieu de la chasse. Zuhui, Zuhui Sip. Un très beau nom maya. Et là, sur les autels, devant ces pyramides, devant ces palais, devant ces temples, qui ont tous eu, vous l'avez compris, une relation avec l'univers, le temps, l'espace, les dieux, qui sont à la fois l'univers, le temps et l'espace. Ces autels, eh bien, on va y placer une flèche, et puis une tête de cerf, qui a été chassée là dans la savane. Cette terre, cette tête et cette flèche, vous allez la peindre, vous allez les peindre avec un peu d'indigo. Vous voyez les hommes qui dansent, vous les voyez peints eux-mêmes en bleu, et vous les voyez se transpercer rituellement la langue. On dressait aussi un arbre sacré pour vraiment ouvrir ce mois de Sip. Et puis ensuite, il y avait Tsots, il y avait Tsek. Alors là, ces deux mois étaient consacrés au miel, quand on dit Maya l'abeille, c'est vrai. Le miel, c'est la richesse du Yucatan aussi. On va l'offrir aux dieux, et surtout à ce dieu Chak, à tous les Chak, qui sont les dieux de la pluie et ses représentants, ceux qui font chaque image de cet univers où l'on attend la pluie, le vent, l'orage, le cyclone. Alors on offre quatre plats qui sont décorés avec des figures qui sont dessinées, qui sont carrément déposées grâce à du miel. On forme ainsi des motifs. Et puis il y avait un festin où il y avait du miel, bien sûr, mais aussi du vin de miel. Ça, c'était Tsots et Tsek. Et puis alors, le premier jour, ou en tout cas les 5 premiers jours du mois Choul, une fête dure toujours 5 jours, même aujourd'hui chez les Mayas, on va préparer un pèlerinage, un grand pèlerinage jusqu'à Mani. Mani, c'est un souvenir de l'ancien culte, celui de Kukulkan. Kukulkan, c'est le serpent à plumes, celui qu'on appelle là-haut dans les terres mexicaines, du côté de Teotihuacan, du côté de Mexico, qu'on va appeler le serpent à plumes, bien sûr, mais on va l'appeler Quetzalcoatl. Et juste après la chute de Mayapan, là je parle de sites qui sont non loin d'Uxmal, Uxmal qui a été abandonné, Mayapan, c'est l'ancien lieu de culte des Toltecs, ceux qui ont survécu et qui en fait n'étaient pas restés dans la ville de Mani, et qui vont ensuite se diriger par chef interposé à partir du nord du Mexique, toujours plus bas, en s'installant un peu partout. C'est ceux qui vont être commandés par les Tutulxiu, la grande dynastie du Yucatan, la dernière. Tiens, j'ai rencontré il y a quelques années le dernier descendant des Tutulxiu. Il est mort. Il n'y a plus de grande famille régnante au Yucatan. Et pourtant, je vous parle, et pourtant, cet homme a vécu et il savait très bien qu'il était le descendant des dieux. Un vieillard qui était conscient que le mot « chiou » signifiait quelque chose. Alors, vous voyez les délégations des autres villes qui arrivent ici à Mani, et elles portent des bannières, il y a de la plume partout, il y a des seigneurs qui ont jeûné pendant des jours et des jours, ils prient maintenant dans le temple, et puis le peuple est là, il apporte ses offrandes. Et au dernier jour de la fête, vous voyez descendre du ciel Kukulkan, le serpent à plumes. Il vient simplement recevoir les sacrifices. Au début du mois de Shakshkin, on prépare la fête de tous les dieux. On peint à l'indigo les instruments du culte, on peint aussi les outils, et puis tous les piliers de chacune des maisons qu'habitent les Mayas. Oh, ce sont des huttes qui sont réparties tout aux alentours des grands sites, autour des grands sites et des centres cérémoniels. Ensuite, il y aura le mois de Mol. Mol, c'est une fête qui était encore plus solennelle. On disait faire les dieux. Les sculpteurs, les prêtres du soleil commençaient un jeûne extrêmement long. Ils étaient enfermés dans une maison sacrée, une maison de pierre. Et là, on brûlait de l'encens aux quatre coins, en l'honneur des dieux, à Kantun, les dieux des points cardinaux. Et puis, il y avait les artisans qui travaillaient le kulche, c'est le bois des dieux, une sorte de cèdre. On va baigner les statues, on va les oindre. On va fabriquer aussi des choses curieuses avec du sang, pourquoi pas, le sang des animaux sacrifiés, le sang que l'on a sorti de sa langue ou de son oreille. Cette fête allait durer jusqu'au 10e jour du mois de Chen, une des plus longues. Alors le propriétaire des statues va payer les artisans et on commençait un grand festin. Ensuite, il y avait Yaksh. Yaksh, en maya, veut dire vert, cette couleur de la nature. C'était la fête appelée Okna. Et puis là, je vous dirais qu'on devait nettoyer les temples, tous les temples des dieux Chak. Et les prêtres du soleil lisaient au peuple tout ce qui correspondait aux pronostics, je dirais même aux horoscopes. Enfin, on parlait des dieux, on parlait des Bakab. Ensuite, le mois Zak, ben là, c'était surtout pour apaiser ces dieux. On allait expier en donnant le sang des animaux qui avaient été tués à la chasse. Il y a quelqu'un qui nous rapporte d'ailleurs. Si je vous raconte tout cela, c'est parce que Diego de Landa, c'est un des premiers qui s'est intéressé au Maya, de façon un peu cruelle, puisqu'il a fait brûler tous les livres, tous ses anciens livres et ses codex. C'est un Espagnol, bien sûr, et il considérait comme chose abominable toute effusion de sang en dehors des sacrifices. C'est ce qu'il avait remarqué, que les Mayas détestaient le sang, bizarrement, en dehors de ces moments extrêmement forts. Et pour cela, chaque fois quand on partait à la chasse, on invoquait le démon. On ne sait pas très bien quel démon, mais en tout cas, on lui offrait de l'encens. Et naturellement, on allait de nouveau mouiller le visage de chacun des chasseurs et ensuite des prêtres avec le sang du gibier qu'on avait tué. Le mois Mac. C'est un mois assez curieux. C'était les vieillards qui devaient célébrer cette fête en l'honneur des quatre dieux Chak. Ces quatre, parce qu'il y en a toujours quatre, parce qu'il y a quatre points cardinaux. Et puis il y avait le dieu Itzamna, le grand créateur, ce dieu qui est à la fois l'énergie solaire et la force solaire. Alors c'est une cérémonie qu'on appelait Tupkak, c'est-à-dire l'extinction du feu. Alors on réunissait des animaux dans l'enceinte du temple. Vous imaginez maintenant un enclos de ces quadrilatères bien fermés. Et là, les assistants des dieux Chak se plaçaient aux quatre coins en tenant une cruche, une simple cruche d'eau. Et au centre de la cour, on faisait brûler un brasier qui était garni uniquement. Vous sentez l'odeur de l'encens? On jetait de l'encens dans ce feu. Et ensuite, on arrachait le cœur des animaux et on les jetait dans ce foyer. On jetait aussi des effigies de cœurs de jaguar qui étaient faites avec la pâte. Cette même pâte d'encens, on la lançait dans les flammes. Et lorsque les cœurs étaient consumés, tous les assistants de ces Chak éteignaient le feu avec l'eau. L'eau des quatre cruches qui étaient aux quatre points cardinaux. Au mois Moine, on célébrait une fête qui s'appelait Ekchwa. J'aime bien le maya parce que rien que la prononciation des mots évoque quelque chose. Il y a une sorte de faculté d'amalgamer les choses, de les mettre ensemble. Ce dieu Ekchwa, c'est le dieu des marchands. Mais attention, pas n'importe quel marchand, les marchands de cacao. Oui, parce que ces marchands allaient très loin pour chercher ce cacao. Et le cacao était une matière tellement noble. C'était la boisson des dieux, c'était la boisson absolue. Oh, ça n'est pas votre cacao, ça n'est pas notre chocolat, même si le mot chocolat vient de chocolatl, qui est un mot aztèque. Non, si je parle de cacao, c'est parce qu'on le préparer justement pour en faire une boisson très amère. Quand vous broyez ainsi les cosses de ce cacao et que vous écrasez cette matière, elle devient extrêmement amère et vous la mélangez simplement à de l'eau. Et au cours de cette fête des marchands de cacao, eh bien, il y avait une jeune chienne qui était prise. Elle avait justement la couleur du cacao et on l'immolait. Une fois de plus, on la sacrifiait. Le mois suivant, c'était Pax. C'était la fête de Pakumchak. Là, les grands prêtres du soleil, tous les seigneurs allaient se réunir. Ils allaient prier pendant 5 jours, pendant 5 nuits, dans l'enceinte d'un grand temple, et tandis que le peuple faisait encore des offrandes, toujours de l'encens. Et on apportait en grande pompe, j'irais même qu'on le mettait sur une chaise à porteurs, très certainement. On emmenait le seigneur Nakom, le chef de l'armée, celui qui commandait à tous les guerriers. On l'emmenait ainsi jusqu'au temple, et là, il était vénéré à l'égal, véritablement à l'égal d'un dieu. Je dirais aussi que quand on voit cette scène, qu'on imagine les hommes qui dansent, la danse des guerriers, ce grand festin qui avait lieu ensuite dans la maison même du Nakom, une maison, bien sûr, quand on dit maison et qu'on dit Maya, quand on dit Na, on pense immédiatement à une maison en dur, et pourtant, lorsqu'on pénètre dans cet enclos de pierre, dans cette hutte étrange faite avec la voûte maya tout en pierre, eh bien on voit qu'elle n'a que la dimension d'une simple hutte, d'une simple maison. Et là, ce Nakom allait commencer à crier, il haranguait le peuple, il allait pouvoir l'exhorter à la piété. On sent cet autre côté, il y a la magie, mais il y a aussi ce côté religieux qui arrive petit à petit. Et le dernier mois, c'est le mois Kumru. Il était consacré aux fêtes, bien sûr, mais des fêtes de libation pour la fin de l'année. Et jusqu'à l'arrivée de ces 5 jours sans nom, au terme du mois Wayeb, effectivement, on allait terminer finalement une année. Et c'était le passage du temps, c'était justement ce que les Mayas appelaient la fin du temps. Pour ce peuple, vous avez vécu 18 mois de 20 jours, vous venez d'entrer dans ce qui est nul, dans ces 5 jours inutiles. Attendez, pop et pour demain. Faisons quelques 37 kilomètres et allons voir plus loin ces petits sites secondaires, toutes ces cités de style Pouk. Pouk, je vous l'ai dit il y a presque déjà 40 minutes, Pouk, ça signifie colline. Cette région des collines, c'est vraiment la plus spectaculaire du Yucatan. Si je parle des sites qui, eux, le sont aussi, j'ai envie de parler de Kaba, j'ai envie de parler de Labna, de Sahil. Alors, quand on arrive à Kaba et qu'on descend ainsi dans la cour principale du site, qui est immense, qui est presque aussi grand qu'Ushmal, il y a d'ailleurs une voie royale, un sacbé, qui était déroulé véritablement dans la savane, mais il est en pierre. On a même retrouvé ces rouleaux compresseurs mayas, ce sont des pierres géantes qui font plus de 5 tonnes. On avait donc poussé ces pierres géantes, ces cylindres énormes, pour créer quelque chose de parfaitement plat. Et puis par-dessus, vous mettez du stuc comme un plâtre de Paris, vous lissez tout cela, et vous imaginez maintenant dans cette verdure ce trait blanc absolu qui part dans la direction d'Ushmal, ou qui vient d'Ushmal, et qui arrive devant un arc. Un arc triomphal, c'est peut-être un des plus vastes ensembles de monuments au Yucatan, parce qu'à Kaba, il y a des pyramides, il y a des palais, il y a cet arc qui ressemble à un arc de triomphe, qui est en fait la fin du sac B. Il se termine ce sac B, cette chaussée de communication, je dirais même c'est une communication extrêmement rapide, il se termine par des escaliers. Nous avons affaire à des piétons, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'animaux de trait, tout se fait en marchant. On peut revoir les mois de tout à l'heure, les 18 mois, et imaginer aussi ces processions qui passaient d'un site à l'autre. Et la ville, ou plutôt le site de Kaba, je crois qu'il est surtout célèbre pour ce qui suit l'arche que j'évoquais tout à l'heure, cette arche qui se dessine aujourd'hui sur le ciel, qui a été restaurée, cette arche qui nous permettait de pénétrer vraiment dans le site. À gauche, vous voyez une énorme pyramide abandonnée qui ressemble un peu à celle du devin d'Ushmal, et tout en bas, le palais des masques, celui qu'on appelle God's Pop. God's Pop, ça veut dire la natte enroulée, tout simplement. C'est la forme de ces étranges nez, ces nez de divinité. Parce qu'on avait même plié ce nez et enroulé si bien que finalement, on en avait fait une sorte d'entrée, une sorte de pas de porte pour pénétrer à l'intérieur du temple. Mais regardez l'édifice, il a de nombreux tchaks, il a de nombreux masques. Thank you. un édifice qui fait pratiquement, je ne sais pas, 40 ou 45 mètres de longueur, qui est bâti sur une esplanade vraiment carrée. Bon, elle doit faire aussi à peu près 80 mètres de côté. Et il y a une superbe volée de marches, puis ensuite une seconde plateforme plus étroite, avec le palais lui-même, qui comporte une bonne dizaine de chambres. Il y a 10 chambres, je crois, qui sont distribuées sur deux rangs et qui communiquent l'une avec l'autre. Il y a des liaisons internes. Et puis, surmonter le tout d'une longue, moi je les appelle cresterias, ce sont des crêtes, hein, comme des peignes qui étaient posées sur le sommet même des palais ou des temples, une crête ajourée qui est formée de grecs, des grecs scalaires qui se détachent sur un ciel. Tiens, aujourd'hui le ciel est bleu. Quand on parle du Gods Pop, de cette natte enroulée, quand on parle de ce monument, c'est en fait la présence de cette quantité incroyable de masques qui nous surprend. Des masques de Chak. Chak, vous savez maintenant qu'il est à la fois le dieu de la pluie, mais de tous ces éléments qui vont former la pluie. Et il recouvrait en fait entièrement la façade et tous les côtés du bâtiment. Alors je dirais non seulement la frise, en dessus de la moulure, c'est-à-dire de cette espèce de lien qu'on a pris l'habitude de voir sur les monuments Pouk, c'est-à-dire une sorte de ceinture supérieure. Non, mais ici, l'ornementation continue par rangée, il y en a trois, et il y a chaque fois 34 masques de ce dieu avec ce nez absolument incroyable, une trompe d'éléphant en forme de S, comme cela, régulière, qui se répète sans cesse. Et la partie inférieure de la façade est également décorée de la même manière, donc il n'y a pas de vide, tout est plein, jusqu'en bas, jusqu'au sol. Parce que d'habitude, dans l'architecture Pouk, on a un panneau, ou en tout cas un bandeau, que sur le haut. Non, là, tout est plein, et on a l'impression d'une immense tapisserie de ces grands motifs en relief. Et vous avez maintenant devant vous ces cinq portes qui sont régulières, et puis une base qui est formée de masques, toujours des masques juxtaposés qui surélèvent ainsi l'édifice. Il y a même des angles curieux qui sont également conçus au moyen de ces mêmes motifs, hein. Vous retrouvez le masque qui est superposé à un autre masque, comme là-bas où nous étions auparavant à Uxmal. Le même message, le même motif, un grouillement où il y a des yeux, où il y a des nez en crochet recourbé, où il y a ses oreilles, où il y a ses sourcils. Il y a, bon, faire une estimation, ben, je dirais que j'ai envie, oui, nous avons envie d'imaginer qu'en faisant le décompte de ce qui est détruit, en comptant la partie haute, en comptant ce qui attend encore la restauration, et en voyant tout ce qui est au sol, parce qu'il y a un véritable puzzle qui est déposé devant vous, là, sur le sol, tous les morceaux que les archéologues ont retrouvés, j'ai envie qu'il y ait 260 masques, uniquement pour être sûr qu'il y en ait 260. Vous avez retrouvé le même chiffre qu'au palais du gouverneur tout à l'heure. Un nombre qui nous rappelle celui des jours de cette année sacrée. 13 mois de 20 jours, tout comme il y avait 18 mois de 20 jours plus 5, 260 ou 365, qui se mêlent après 18 980 jours et qui forment 52 ans. 52 ans et 52 ans qui forment 104 ans. On parle exactement, Maya, on parle du temps, de l'espace, de ce mouvement solaire. 18 980 fois il est revenu et 18 980 fois, nous avons conjugué des noms et des chiffres et nous sommes retombés sur le même compute et le cercle va pouvoir reprendre et continuer, la grande roue va continuer. Alors quand on parle de ces décors, de cette surprise, de ce vocabulaire que l'on a ressenti chez les Pouk ou chez les Mayas de cette région, ce côté très stylisé, cette surcharge aussi, ce style Chenes qui vient se mêler à cela. Quand je dis Chenes, c'est simplement que lorsqu'un monument est complètement décoré jusqu'en bas, on l'appelle comme cela. Bon, ce sont de simples noms, mais il faut quand même les citer. Il y a quelque chose de très stylisé, mais il y a aussi cette surcharge justement que j'évoque avec ces façades entières qui se transforment véritablement en effigie. Je parlais du Lego tout à l'heure, vous voyez qu'on vient de répéter cette effigie du dieu en multiples, et c'est ça qui nous fait comprendre à quoi servait véritablement le Gods Pop. Moi j'ai toujours envie de l'appeler le moulin à prière, comme si tout à coup chacun de ces masques répétait un message. Il y a une sorte de fascination, il y a une répétition, quelque chose de... on est un peu hypnotisé par cette image répétitive, par ce rythme répétitif. Et c'est ça qui produit cet effet comme d'une litanie, de quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, qui n'a pas de commencement. Tout cela, c'est l'idée, Maya. Nous évoquions le temps tout à l'heure. Je crois qu'on pourrait aller à Edzna, on pourrait aller à Sahil, on pourrait aller à Labna même, et chaque fois, vous retrouverez le même message. Alors, je dirais aussi que quand on parle de ce temps, de cette façon de créer à la fois des juxtapositions de pièces, de masques, de rythmes, cette façon de remplir l'espace, c'est quelque chose qui n'existe que dans cette région-là, cette notion de la rationalisation, de l'industrialisation presque de la pensée et de la répétition, c'est quelque chose qui est propre. Il y a de l'abstraction, bien sûr, mais soyons clairs, nous venons de découvrir qu'il y avait surtout de la symbolique. Et si ce monde maya est mort aujourd'hui, si il est mort même bien avant l'arrivée des Espagnols sur tout le continent américain, je dirais que la beauté, je dirais aussi que l'harmonie, cette science que l'on a tenté de découvrir, tout ça s'est éteint en même temps que le monde maya. Tout cela a fini par disparaître. Mais la parole, ce que j'appelle le verbe de ce peuple, ben, je crois que c'est pas quelque chose qu'on peut éliminer complètement. Non, on ne peut pas l'éliminer parce qu'ils ont laissé, sans le vouloir, une sorte de trace sur cette terre du Yucatan. Ils ont laissé aussi une trace, je dirais, dans l'âme, dans le corps de tous ces hommes. De génération en génération, on sent quelque chose qui vibre à l'intérieur, qu'il y a encore quelque chose. Le monde maya est mort, il est mort sans explication, il est mort sans qu'on ressente de drame véritable. Alors que la plupart des autres peuples donnent toujours une raison à leur propre fin, à leur conquête, à leur révolution, on parle de cataclysme. Le peuple maya, on a l'impression qu'il a disparu tout seul, qu'il a disparu sans qu'il y ait de choc, sans qu'il y ait de heurts apparents, comme si un jour, les dieux avaient simplement détourné leur regard et qu'ils l'avaient abandonné. Et finalement, Si je parle de cet empire de l'harmonie, si tout cela s'est disloqué, que ces villes saintes, ces centres cérémoniels sont morts, ces monuments ont été repris par la forêt, ils ont été repris par la terre, ils ont été oubliés de tous, mais ces lois, ces connaissances, ce langage aussi, cette écriture qu'on évoquait, ces symboles, ils sont entrés simplement dans un sommeil, un long sommeil. Ils sont cachés derrière. Regardez les paupières de quelqu'un qui dort quand il est maya. Vous allez sentir qu'il y a des forces lointaines qui agissent encore. Il y a quelque chose en profondeur. On a l'impression que tout peut ressurgir, que les masques peuvent se réanimer, qu'il suffit d'un mot pour qu'on retrouve l'ancien savoir, qu'on retrouve une langue nouvelle, qu'on ordonne de nouveau l'espace. Comme si ces voix qui étaient venues de je ne sais où, du fond de l'espace par exemple, eh bien que ces voix allaient de nouveau résonner. Et que si ces voix qui sont celles du soleil, celles des étoiles, allaient de nouveau occuper ce silence du Yucatan. Je dirais que si ce peuple des Itzas ou des gens, les Chiou, d'Uxmal, de Mani ou de Mayapan, de Kaba, de Sahil ou de Labna, ressortaient ainsi de leur puits, de leur citerne, de leur grotte, on a l'impression que chaque fois on pourrait revivre ce miracle du Katoun. Ce Katoun, vous savez, le Katoun, c'est cette période de 20 ans qui revient sans cesse, tout comme revient cette période de 52 ans, cette période de 260 jours, de 365 jours. Tout cela devrait pouvoir et allait certainement recommencer ou commencer. Que finalement, un jour, comme au début, le ciel allait conquérir la terre, qu'il allait reprendre cette terre. Je crois qu'il faut parler du soleil. Qu'aucune terre n'a été à ce point soumise au soleil, parce que on vivait par lui. On vivait pour lui. Et le pays maya que j'essaye d'évoquer, le Petén, ce pays de savane où nous avons vu Uxmal, Sahil, Labna, Xlapak, Kaba, c'est d'abord ce pays de l'astre suprême. Un pays plat, un pays aride, un pays dénudé, un plateau calcaire qui est tout simplement présenté au ciel, présenté comme un désert habité où il n'y a pas de rivière, c'est vrai, il n'y a rien et pourtant il y a ce soleil. Ce soleil dans l'espace.